ce soir, on a de la chance. On va écouter deux exposés très différents. Et chacune des exposantes, puisqu'il se trouve que c'est deux dames, ont pris une des deux voies qui était ouverte, au fond, par notre thème et sa présentation. Puisque, comme on l'a déjà cité, on a souhaité entendre des personnes pas trop éloignées de leur expérience analysante. C'était déjà une invitation à parler en se souvenant de son expérience, en s'appuyant sur son expérience, mais ça ouvrait deux voies. Ou bien parler comme analyste dont la pratique est encore jeune. J'emprunte l'expression à Sibylle. Parler comme analyste dont la pratique est encore jeune, ou bien parler plutôt en s'appuyant sur l'expérience de sa propre analyse. Ça ouvre deux voies. Et nous avons les deux voies qui sont représentées ce soir. Et je me suis aperçue que du coup, il y a énormément de questions à débattre, à discuter. On n'en viendra même pas à bout, c'est sûr. Mais ça rend la, d'avance, je cherche à vous donner l'idée que ça va être voilà. Très intéressant. Voilà. Alors là, je vais passer d'abord la parole à Sibylle et ensuite à Eliane Pamar.
Ça marche ? Oui. Donc j'ai intitulé mon texte « Ça dure, c'est dur ». Bon, ça fait beaucoup rire quand j'en ai parlé à des personnes extérieures, bien sûr, au champ de la psychanalyse. Mais donc tel a été le titre que j'ai proposé lorsque Claire Parada a fait une relance. L'argument était déjà fait, mais le titre, effectivement, y était passé un peu à la trappe. Donc tout d'abord, merci à la commission qui m'a contactée pour me proposer d'intervenir dans ce séminaire d'école. J'ai répondu oui, une certaine excitation m'animait alors, avec aussi l'appréhension de ce que j'allais pouvoir apporter à ce débat qui se montre déjà assez passionnant et riche au vu des deux premières séances qui ont eu lieu. La durée des analyses, comme il était évoqué dans la séance du 20 novembre, cela dérange qui, finalement ? Les intervenantes ne se sont pas beaucoup plaintes de ce que cela dure. Les analystes parfois soulignent que cela dure, mais c'est surtout l'entourage qui se plaint, qui n'a pas entendu la réflexion depuis tout ce temps, ces années, voire ces décennies. T'en es toujours là, même symptômes, même répétitions, même manifestations, qu'ils voient en réduction, bien sûr. J'ai fait un compte approximatif. En ce qui me concerne, en me basant sur la durée d'une séance en moyenne à 20 minutes, donc à la louche, cela ferait au bout du compte 16 jours 3-3-3-3-3-3-3. Bon, c'est un clin d'œil.
Est-ce que vous avez pris la journée de 35 heures ?
Ben non, j'ai pas compté.
Ou la journée de 12 ?
Non, j'ai compté avec 24.
24 ? Les nuits sont incluses alors.
Voilà, non-stop, donc il faut les tenir quand même. Il faut plein de petites bouteilles de tenons au lieu de tonons. Donc pas de quoi en faire un drame vu de cette manière. Mais cela s'étire avec une fréquence, une dynamique qui évolue, se modifie, connaît des moments aigus, des durées plus tranquilles, un timing qui est référé à la logique du sujet, mais aussi, il me semble, à d'autres coordonnées qui peuvent avoir une incidence. J'y reviendrai un petit peu après. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur l'argument proposé par Marc Strauss pour annoncer ce séminaire, et notamment à ce que Sylvana Clastre avait déjà mis en relief, cette allusion au fait de proposer la parole à des personnes pas trop éloignées de leur expérience analytique. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à un passage d'un texte de Lacan qui a eu une grande importance pour moi au départ. C'est le petit discours au psychiatre. Ce petit discours était fait dans le cadre d'un séminaire créé par Henri Hay, le Cercle d'études psychiatriques. Il y avait une partie réservée à la psychanalyse et Lacan fut, bien sûr, invité à y contribuer sur le versant de la psychanalyse. Et il a souhaité y parler, notamment, de la formation du psychanalyste. Cela venait à un moment particulier pour Lacan, le 10 novembre 1967, Année délicate, avec la proposition, bien sûr, d'octobre 67, la mise en place du séminaire sur l'acte psychanalytique et les scissions en différents groupes. Mais à la fin de cette conférence, il évoque un échange avec les collègues américains sur les motivations à être psychanalyste, comme ascenseur social, et le ronron confortable dans lequel cela peut propulser. Mais je cite un passage un petit peu après, où il est question donc de cette expérience pas très loin de l'analyse. Alors que dans bien des cas, il est tout à fait clair que quelqu'un qui sort juste de sa psychanalyse est capable de voir des choses que le psychanalyste chevronné, n'est-ce pas, qui depuis le temps a eu tout à fait le temps d'oublier son expérience que j'ai appelée précaire, laisse facilement passer. C'était déjà là une source de réflexion à elle seule. Voilà le psychanalyste chevronné, fustigé de dormant ou d'occupé ailleurs ou de désintéressé, vous ne savez pas trop ce que ça pouvait vouloir dire. En tout cas, il lui est possible de ne pas voir ce qui se passe. C'est une modalité du manque de garantie, mais lorsque le sujet arrive dans un cabinet de psychanalyste, il n'a pas d'emblée cette idée-là. Au contraire, il a idée de pouvoir déposer quelque chose de son symptôme, peut-être de la manière dont il a aussi peut-être idée de la manière dont cela va se passer pour les personnes qui viennent un petit peu du champ psy tout venant. Et cela va soutenir d'ailleurs un peu la mise en place du transfert. À ce sujet d'ailleurs, il m'a semblé que si Lacan donne une définition du transfert éloignée de celle de Freud dans l'expérience, les deux ne s'excluent pas. En effet, si on part de Freud et de son transfert comme de l'amour, cette théorie traîne dans tous les livres de philo, dans les magazines, et les gens qui n'ont pas la culture psychanalytique trop poussée, notamment du travail de Lacan, restent sur cette idée. Cela me rappelle une jeune fille, que j'appellerai Sophie, qui venait me rencontrer. Elle savait quelle était mon orientation de travail, elle voulait faire un travail d'analyse. Mais si elle a pu amener une question d'emblée autour de son choix amoureux et sexuel, elle a vite dit qu'elle ne voulait pas tomber amoureuse de son psy, comme cela devait se faire. Elle n'avait pas eu accès au concept de Lacan, elle n'avait lu qu'un peu de Freud, mais suffisamment pour dire que le transfert était de l'amour et qu'elle ne voudrait pas se laisser aller à cela. Elle n'a pas supporté et elle est partie au bout de quelques semaines d'entretien. Peut-être à l'époque n'avais-je pas su faire céder la charge affective de ce signifiant transfert. Freud a donc misé sur cette définition et Lacan avancera radicalement, faisant état du transfert comme de l'amour certes, mais adressé au savoir. Cela change la donne, mais surtout du côté psychanalyste. L'analysant énamouré n'est pas forcément dans le transfert, cela peut le faire résister d'ailleurs, car les stratégies seront multiples pour opérer une forme de séduction. Et pendant tout ce temps, le travail analytique ne commence peut-être pas ou se suspend. Mais quand viennent les prémices d'un amour qui s'adresse au savoir, le discours peut alors se modifier et entrer dans une forme de discours analytique, qui augure du travail autrement. L'analysant, quelquefois, peut en témoigner au cours du travail, de ce changement qu'il a éprouvé. Ce transfert plus adéquat au travail d'association instauré, il va falloir aussi en maintenir la dynamique. Et là, la singularité de chaque cure va continuer à se faire entendre. Mais en évoquant la singularité de la cure, aucune cure ne ressemble à une autre, et peut-être même aucune tranche d'analyse ne ressemble à une autre, même avec le même analyste. Ça, on a commencé un tout petit peu aussi à l'évoquer. Cette singularité est souvent mise du côté, bien entendu, de l'analysant, mais l'analyste, lui, est-il concerné aussi par cette singularité? Il me semble que oui. Il opère peut-être d'un lieu autre que sa structure, il occupe la place de semblant d'objet, et de fait ne sera pas le même analyste pour Pierre, Paul ou Jacques. D'ailleurs, dans ma pratique, certes jeune, il est à noter des interventions ou des actes qui ne peuvent pas être équivalents d'un analysant à l'autre. Mais je pousserai la question un peu plus loin avec une notion qui m'a beaucoup fait travailler. On parle souvent du psychanalyste, des psychanalystes. Mais ce que Lacan a mis en question, et à l'épreuve de la passe, notamment, c'est de détecter s'il y a du psychanalyste. Non pas si l'analyste est bon ou mauvais, mais s'il y a une trace, ai-je envie de dire, d'une opération possible analytique. S'il a trouvé nécessaire aussi de mettre en avant le désir de l'analyste comme désir inédit, je voudrais essayer de mettre en question ces deux coordonnées qui me semblent indéniablement fondamentales, mais d'en souligner aussi les effets dans l'expérience. En effet, il est extrêmement fréquent, et j'en suis, de commencer une pratique d'analyste sans en passer par l'étape de la passe. C'est souvent l'acte analytique qui précède l'épreuve et le désir peut alors se poser en termes. Pour deux cas d'analysant que je reçois, j'ai le désir de devenir ou d'être analyste. Ce désir, énoncé ainsi, ne relève absolument pas du désir de l'analyste, mais d'une pieuse intention, ou d'un égarement, ou d'un horizon hypothétique. Mais le signifiant désir est tellement bon à placer partout. Donc j'en reviens à l'acte, qui installe X ou Y en position d'analyste. Il s'autorise de lui-même, sans attendre les quelques autres d'un autre dispositif, la passe par exemple, mais sans exclure de s'y confronter ultérieurement. Et même si l'acte est là et peut se réitérer, est-ce forcément le témoignage du désir de l'analyste ? Lacan l'évoque, toujours dans son petit discours au psychiatre. Moi, j'ai beaucoup parlé avec mes collègues américains de questions techniques, par exemple. Et ce qui leur apparaissait décisif pour le maintien de certaines habitudes, de certaines coutumes, d'une certaine routine, eh bien, mon Dieu, ils le disaient. C'était leur tranquillité. Rien ne leur paraissait plus décisif pour motiver la façon, par exemple, dont est levée ou fermée la séance, que le fait qu'ils pourraient être absolument sûrs qu'à 5h moins 10, ils prendraient tranquillement leur whisky. Cela paraît caricatural, mais quelquefois, la hâte à conclure une séance peut être aussi liée à des conjonctures plus organisationnelles que la logique ou la visée analytique. Quand ce point peut être évoqué dans certains séminaires, il est souvent fait mention, enfin, dans certains séminaires de travail, enfin, pas les séminaires de Lacan sur lesquels on travaille. Donc il est souvent fait mention que si cela a de l'effet, alors c'est pris dans le travail. D'ailleurs, la question des séances courtes peut être une catastrophe si l'usage qui en est fait est mal adapté. Rosine, par exemple, une analysante que je reçois depuis quelques années maintenant, est arrivée en disant qu'elle avait une mauvaise première expérience avec un analyste. Elle explique dans la foulée que les premiers entretiens n'ont pas excédé à chaque fois 8 minutes. Alors, je ne sais pas si elle avait la montre en main. Elle se soldait par des coupures qui l'ont sidérée et ne font toujours pas référence à quoi que ce soit pour elle. Ce que j'en ai saisi pour ce qui la concerne est que sa démarche était déjà un peu résistante et que le transfert n'était absolument pas en place. Et si l'analyste a pensé faire interprétation avec ses interventions, cela n'a pas du tout opéré. Les entretiens préliminaires restent donc une étape incontournable et l'acte doit aussi attendre certaines coordonnées. Alors c'est ce que là j'ai essayé d'illustrer aussi avec un cas. Alors je ne sais pas si je le déplie maintenant ou à la fin. Oui. Donc parce que ça vient effectivement dans... Oui, oui, oui. C'est le cas de Mélodie. Je l'appelais Mélodie parce que c'est une musicienne. Donc elle m'était adressée par une psychologue de la PMI de secteur, donc qui sait la manière dont je travaille et qui adresse en général en parlant de l'aspect psychanalyse. Et elle a déjà eu des entretiens avec elle, donc la psychologue l'a dirigée sur l'extérieur. Donc Mélodie a une fille qui aura bientôt 1 an. Et elle décrit tout de suite une difficulté à concilier son métier et être mère, car elle est musicienne. Elle a beaucoup de mal à se réorganiser entre le bébé et le travail de l'instrument et les concerts. Son compagnon est musicien amateur et prof d'instruments et de sport. Elle a eu une reprise de travail dans ses différentes formations en juin. Elle n'a pas recherché trop les concerts. Puis il y a eu une hausse de son activité, un enregistrement. Puis une période creuse à nouveau. Elle précise que la grossesse avait été réglée pour qu'elle puisse travailler l'été. Elle a été très angoissée en début d'année car elle pensait ne pas y arriver. Elle conclut sur cette présentation pour demander comment organiser son temps sans qu'elle laisse son bébé toute la journée chez la nounou. Elle veut profiter un peu de sa fille et réussir à travailler un peu. Je n'avais rien répondu à cela, mais il avait déjà fallu que je la questionne vraiment beaucoup pour un peu avoir les renseignements précédents. Donc. Elle reprend en précisant qu'elle a des problèmes subsidiaires. Elle a des insomnies. Elle avait consulté l'an dernier à la clinique du sommeil et avec la grossesse, elle dit « j'ai laissé couler ». Cela a différé et elle y est retournée en cours d'année. Avant, elle rattrapait la journée, mais avec le bébé, elle ne peut plus. Cela a commencé en 2002 et cela coïncide avec plusieurs choses. Elle a quitté son travail pour la musique en tant que professionnelle. Elle a perdu plusieurs amis en quelques mois d'intervalle. C'est venu subitement. Elle décrit ses nuits, elle s'endort, se réveille en milieu de nuit, et pendant 2 ou 3 heures, elle n'arrive pas à dormir. Elle peut avoir des angoisses qu'elle ressasse, ou pas d'angoisse, alors elle lit ou regarde la télé. Alors les décès, je l'interroge. Une amie, c'était un accident de la voie publique. un ami, le fils de sa nounou quand elle était petite, qui est tombé d'un étage élevé. La femme d'un ami est décédée de maladie. Elle ajoute qu'une de ses meilleures amies a fait une TS, une tentative de suicide, une nuit. Et, je la cite, « Je suis restée au téléphone plusieurs heures avec elle pour ne pas qu'elle s'endorme en attendant les pompiers qu'elle avait aussi appelés. » Elle relate ça sur un ton très égal. Mais j'avais entendu cet épisode maintenir en éveil cette amie pendant la nuit avec ce qu'elle avait dit de ses insomnies à elle. Je lui ai proposé ce lien, ce à quoi elle a semblé surprise et a répondu qu'elle n'avait jamais fait ce rapprochement. Elle était cependant déjà angoissée auparavant par la maladie, la mort et son père qui était mort quand elle avait 12 ans. Un coma diabétique, peut-être, elle ne sait pas. On n'a jamais mis des mots dessus. On disait toujours « à cause du diabète ». Ses parents s'étaient séparés quand elle avait dit... Enfin, elle amène... D'accord. Ses parents s'étaient séparés alors qu'elle avait 6 ans et elle divorce, et ils divorcent quand elle en a 8. Son père buvait, ils se disputaient souvent. Elle se demande comment ils ont pu faire couple et comment ils ont fait pour se rencontrer. Elle conclut en disant que raconter les choses ne lui suffit pas. Cela ne l'aide pas. Elle ne pense pas revenir. Je lui dis qu'il y a certainement à dire davantage sur tout cela, qu'elle peut faire des liens entre un certain nombre de choses. Elle répond qu'elle a essayé déjà 2 psys. Le premier lui a dit de rentrer chez elle. Le deuxième ne disait rien. Elle l'a vu 2 fois. Elle n'y est pas retournée. Elle rajoute qu'elle espère autre chose, qu'elle est peut-être exigeante. Elle veut du prêt à appliquer. Et c'est pas mes trucs sur le sommeil qui vont être efficaces, me dit-elle. Vous essayez d'être, elle ne trouve pas le mot tout de suite, ou ne veut pas le lâcher tout de suite, empathique, mais il me faut des solutions concrètes. Elle refuse un autre rendez-vous et repart avec une certaine assurance, mais j'ai déjà le sentiment d'une rencontre ratée, de mon côté en tout cas. En effet, elle était assez réticente à livrer les choses, je suis obligée de la questionner, elle limite le côté affectif et fait passer en subsidiaire des épisodes qui me paraissent importants. Elle se demande aussi comment ses parents se sont trouvés et n'arrive pas à trouver, elle, un partenaire à qui s'adresser. Je pense que mon intervention sur le sommeil et le maintien en éveil de son amie a produit quelque chose, a certainement dérangé quelque chose de son aménagement de jouissance, à ne pas en vouloir savoir quelque chose. Je vais peut-être montrer un petit bout de savoir, là où elle maintient quand même du signifiant vraiment qui recouvre tout, ce signifiant insomnie. Est-ce en réaction avec cette révélation à elle d'un savoir possible mais différent qu'elle refuse si catégoriquement de revenir ? Je ne le saurais pas, mais le déroulement de cette rencontre m'avait beaucoup interrogée. C'était il y a quelques années déjà. Et je suis où, là. Donc voilà, ça c'était par rapport aux entretiens préliminaires où effectivement, il me semblait que si on ne respecte pas certaines coordonnées, ça peut complètement rater. Donc je reprends mon texte. Donc si un analyste peut avoir une responsabilité dans la suspension d'une cure ou en tout cas dans l'empêchement de la mettre en place, pourquoi n'aurait-il pas sa responsabilité aussi pour que cela s'éternise ? Puisqu'on est dans la question de la durée, c'est des deux côtés. Je reviens sur la question de l'acte et du désir de l'analyste. Je me suis longtemps dit que ce désir inédit pouvait répondre à une formule issue de ma formation initiale médicale et psychiatrique. Il n'y a pas obligation de résultat, mais il y a obligation de moyens à mettre en œuvre. Le désir de l'analyste n'est-il pas cette coordonnée qui doit absolument permettre le déroulement de la cure et ne pas la mettre en échec ? Qu'un moyen à mettre en œuvre relève du désir. Mais c'est aussi une coordonnée délicate, car pour qu'un désir soit toujours éveillé sans s'infléchir, il doit être solide. Et ça me renvoie aussi sur la question dans ce texte, le petit discours au psychiatre, où il est fait mention à plusieurs reprises de l'expérience analytique comme expérience précaire. Enfin, je fais cette association là sur le moment. Donc, si j'en viens à mon expérience personnelle, il y a eu des moments où j'ai perçu certains fléchissements de la part de l'analyste, des moments de ressaisissement également. On peut toujours dire que ce sont mes interprétations, projections et lucubrations, mais les analysants ne sont pas des idiots quand même, et peuvent aussi percevoir des choses, qui peuvent rester énigmatiques ou non. Cela fait partie du travail. Cela peut être inévitable dans certaines petites communautés de travail, mais cela n'empêche pas le travail, quand la détermination de l'analysant est vraiment engagée. Je ne parlerai pas en détail d'un moment qui reste crucial dans mon expérience, car ce n'est pas lieu de l'exposer, mais une manifestation relevant du subjectif de l'analyste a mis à jour ce qu'il en était de mon désir d'analyste. Son ressaisissement a permis une élaboration de ce moment et de cette surprise qui surgissait là, surprise pour les deux. À un autre moment, serais-je revenu ? La conclusion de cette cure ne pouvait s'imaginer hors de ce lieu et hors de cette présence qui avait permis que cela, d'une part, s'initie et se déroule. Donc ça renvoie aussi à la question vraiment de la précarité. Tout cela pour dire que s'il y avait eu un psychanalyste sans du psychanalyste, cela n'aurait pas été identique. Et du psychanalyste n'implique pas le un unitaire, le tout et tout le temps. Sur les 16 jours 3-3-3-3-3, les moments cruciaux ont convoqué du psychanalyste. Mais de longs moments se sont déroulés pour le sujet analysant, à se confronter au sens, à l'histoire, aux événements de vie qui traversent aussi le temps de la cure, les expériences subjectives qui peuvent nécessiter du temps à différents moments de la logique. La cure ne met pas à l'abri de la contingence extérieure, ni la contingence interne à la cure. Accepter est un terme qui fut utilisé lors de la dernière séance de ce séminaire. Il faut accepter toutes les modalités qui retardent, qui entament sur le temps de déroulement, qui obéissent aussi aux résistances de l'analysant. Tant que ce n'est pas l'analyste qui se pose en résistant au déroulement de la cure, par des interventions issues de sa subjectivité, ou en voulant trop en faire de la psychanalyse appliquée, Rosine en a fait un peu les frais dans sa première tentative. Puis un autre sujet qui relatait son expérience de cure, parce que bon, les analysants parlent aussi beaucoup entre eux, du même analyste ou d'un différent, mais on aime bien discuter et échanger les impressions. Donc, c'était un sujet qui relatait son expérience de cure, où l'analyste, pour le coup que l'on peut dire chevronné, interprétait très régulièrement avec la logique borroméenne. Donc, ça laissait un peu l'énigme suspendue, oui. Alors, trop de connaissances qui viennent boucher, ou en tout cas encombrer quelquefois l'acte ou la conduite de la cure. Pour revenir à Freud, je relisais son texte « La question de l'analyse profane ». Il explique aux candides qui lui posent des questions dans cet ouvrage comment se déroule l'analyse, les concepts, etc. Il n'est pas contre la durée quant à lui, mais bon, ramené à son époque. Hein. Et il dit même à un moment « La magie réclame la rapidité, l'instantanéité du succès ». Mes cures analytiques exigent des mois, voire des années. Donc, ce n'est pas trop de la magie. Quel autre meilleur exemple que celui de Anna G., dont la petite fille a édité les traces de ses notes de son analyse avec Freud. La demande d'analyse par courrier faite par Anna G. a trouvé pour réponse le 23 mars 1921. Je ne peux vous accepter avant de savoir si mes honoraires vous conviennent et si votre calendrier m'agrée, point sur lequel vous ne vous êtes pas prononcé. Mais je ne prends personne qui ne puisse rester jusqu'au 15 juillet. Ce dernier point, à lui seul, est déterminant. Mais revenons à la question de l'analyse profane. Freud dit aussi qu'il faut privilégier le choix de noms courants au lieu de vocables grecs sonores. Mes doctrines doivent être comprises par nos malades. Cela se discute, il me semble. Mais ce souci que Freud souligne de rendre le discours autour de la psychanalyse accessible n'est pas complètement inutile. Et peut-être Lacan, en situant l'échec de son enseignement pour une part dans le fait qu'il ne se soit adressé qu'à des psychanalystes, y répond-il aussi. D'ailleurs, dans ce petit discours au psychiatre, pour y revenir toujours avec plaisir, il s'efforce de ne pas être aussi opaque que dans ses écrits ou même dans ses séminaires. Car le psychanalyste est chevronné, certes, par son expérience, la pratique qu'il a, mais aussi par le travail théorique qu'il a fait au fil des années, devenant lui-même théoricien parfois, proposant des hypothèses. En tout cas, ce travail théorique ne l'éloigne-t-il pas aussi parfois de l'expérience ? Je me souviens toujours, lours de mes premières incursions dans des journées nationales de psychanalyse, au siècle et au millénaire dernier, d'une intervention qui m'avait mise dans un état de perplexité intense. Normal quand on entend des lacaniens intervenir et ne s'adresser finalement qu'à des psychanalystes chevronnés ou non. J'en étais ressortie en me disant « l'analyse lacanienne, c'est cela ?» Très désappointée. Puis par la suite, je m'étais dit « et de ce que je dis en cure, il peut en être traduit cela, en entendant aussi des témoignages, avec ces termes-là, ou bien devrais-je en arriver à parler comme cela dans ma cure ?» Au fil des années, bien sûr, les choses ont un peu changé, bien que j'ai toujours été très réservée à théoriser dans ma cure, me disant que ce n'était pas le lieu ni le but. Au début, je me refusais même des lectures de textes psychanalytiques pour que cela ne parasite pas mes associations. Mais ce qui peut aussi gêner dans l'inflation de concepts ou d'interprétations ou d'hypothèses proposées, ce sont les tentatives de formaliser la fin de la cure. En moins de 20 ans, j'ai entendu parler de modes de fin avec l'identification à l'analyste, la traversée du fantasme, l'identification aux symptômes et maintenant la fin avec l'inconscient réel. Autant de propositions qui doivent tout de même aussi avoir des effets dans la conduite d'une cure. Je n'ai pas encore connu cette période-là de fin logique de cure avec les analysants que je reçois, car ma pratique de jeune analyste ne m'en a pas donné l'occasion encore. Je n'ai d'exemple que des interruptions. Il me semble que cela rejoint un peu ce que je disais lors des publications, lorsque je lisais ce qui se disait, oui, lors des publications des cartels de la passe et lors des discussions aussi dans des séminaires d'école l'année précédente, il ressortait qu'il ne fallait pas que le cartel de la passe n'ait une écoute trop orientée, ne cherche trop à entendre ce qui devait être entendu pour être institutionnellement ou doctrinement recevable, mais devait rester finalement disponible à la surprise. La disponibilité à la surprise n'est pas si simple que cela à cultiver. Le précepte premier de Freud fait partie certainement des conseils auxquels ne pas déroger. Aborder chaque nouvelle cure en oubliant toutes les cures précédentes ou en cours à côté. Je me demande s'il ne faudrait pas aussi oublier un minimum de connaissances théoriques pour ne pouvoir que s'en servir. Même si l'enseignement donne quelques lignes qui se sont dégagées à partir de la clinique, sur les structures notamment, il est nécessaire de ne pas faire se superposer les cures d'obsessionnels ensemble ou les cures d'hystériques. Même si on est tenté de dire « Ah, les cures d'obsessionnels, c'est parti pour un moment. » Et l'hystérique répond « Merci pour ce moment. » Alors, en reprenant tous ces commentaires, remarques, questions qui restent actives, qu'en tirer ? La nécessité de maintenir la question de la formation de l'analyste au travail. La formation, l'analyste aussi au travail, mais la question de la formation surtout. Et cela me semble le fait dans les écoles diverses, avec leurs propositions diverses aussi, certes. J'ai lu dernièrement, c'est une collègue qui me parlait de sa formation, et là c'était très... très formalisé, ça se déroulait sur un nombre d'années données avec donc une analyse didactique, un travail en groupe et je ne sais plus si c'est la SPP ou une autre. Donc ça aboutissait à la production d'un analyste. J'ai marqué en 8 ans, mais je me demande si c'est pas moins. Enfin, c'est bon. Donc là, ils réduisent le temps. Je ne sais pas combien ça coûte, par contre. Mais la nécessité de ne pas minimiser le travail dans l'espace de contrôle ou supervision. Moi, les deux mots, je les utilise. Je ne sais pas s'il y en a un qui fait gros mot ou pas, mais bon. Ne s'autoriser de soi-même ne veut pas dire s'isoler ou rester avec soi-même. Donc tout ça, ça maintient les questions aussi au travail. Et ce qui maintient aussi les questions au travail, c'est se confronter aux dispositifs institutionnels existants. Donc la passe, oui, la mise en commun aussi du travail autour des textes. Manière aussi de se confronter aux quelques autres congénères qui ne sont pas là en tant qu'experts, des psychanalystes arrivant dans la communauté, mais qui sont là, qui ont participé au mouvement, à la mise en place de l'institution. Bref, tout ce qui peut maintenir éveillé, ouvert à la surprise, etc. Donc, le travail.
Merci, Cyril. Alors, je vais passer directement la parole à Eliane Pamard, et puis on discutera après.
Alors, je voudrais tout d'abord, je ne sais pas si on m'entend là, je voudrais tout d'abord remercier... tous ceux qui ont eu l'idée de ce séminaire et de ce thème et de ce sujet. Il faut que je rapproche. Ouais. Voilà, parce que je trouve que c'est une très bonne idée et que effectivement, ça permet de nous donner la parole de manière très différente. Voilà. J'espère que vous allez vous y retrouver. Alors, j'ai donc intitulé mon travail « De l'analyse à la passe, paradoxes et butées ». Il faut le temps. Il faut le temps pour que le moment de conclure advienne. Autre manière de paraphraser le fameux Voetvar Zollig Werden de Freud, ou bien encore rappeler l'apologue des trois prisonniers où Lacan distingue les trois temps logiques. Le temps de voir, celui de comprendre et enfin celui de conclure, pour revenir sur les pas de Sylvana que vous avez entendu la dernière fois. Les témoignages d'analyse ne mettent-ils pas en évidence qu'il y a différentes manières de scander ces temps logiques ? Selon une ligne continue avec le même analyste, ou dans la discontinuité de plusieurs tranches, toujours avec le même analyste, ou dans la discontinuité de plusieurs tranches, ou bien encore une succession de plusieurs tranches avec changement d'analyste à chaque fois, voire avec une interruption entre deux. Ainsi, le temps se fait tour à tour buté et paradoxe, puisque sans sa durée, il n'y aurait pas d'analyse. À chaque étape, un temps requis est nécessaire pour parvenir à une conclusion définitive du parcours analytique. C'est ce que je vais essayer de vous transmettre. Si j'ai introduit la passe dans mon titre, c'est aussi pour souligner le paradoxe entre la durée des analyses et le temps compressé, inhérent à la procédure de la passe, qui a pour fonction de ramasser en quelques entretiens, voire un seul, la production analytique du passant, comme Marchaux se soulignait dans l'introduction de ce séminaire. J'ai trouvé dans la 33e conférence de Freud, qui date de 1932, intitulée « Éclaircissement, application, orientation » à propos du traitement psychanalytique qui exige un temps d'une longueur disproportionnée, dixit Freud, ces indications pour répondre à la critique concernant la durée des analyses, donc qui existait déjà à l'époque, et où il indiquait, donc là je vous lis Freud, mais je trouve ça très intéressant, à cela, il faut répondre que les changements psychiques ne s'accomplissent que lentement. S'ils surviennent rapidement, soudainement, c'est mauvais signe. Il est vrai que le traitement d'une névrose grave s'étend facilement sur plusieurs années, mais demandez-vous en cas de succès combien de temps aurait duré la souffrance. Vraisemblablement une décennie pour chaque année de traitement. Voilà, qu'à cela tienne. C'est-à-dire que l'état de maladie, comme nous voyons si souvent chez des malades non traités, n'aurait jamais disparu. Dans bien des cas, nous avons des raisons de reprendre une analyse après un grand nombre d'années parce que la vie a développé, devant des occasions nouvelles, de nouvelles réactions maladives. Entre-temps, toutefois, notre patient a été en bonne santé. Cela vient de ce que la première analyse n'avait pas fait apparaître toutes ces dispositions pathologiques, donc on pense à Ferenczi évidemment, et qu'il était naturel que l'analyse s'arrêtât, le succès une fois obtenu. Il y a aussi des gens gravement handicapés qu'on conserve toute leur vie sous garde analytique. Alors moi j'ai bien aimé cette expression, garde analytique, et qu'on reprend de temps en temps en analyse, mais ces personnes seraient sans cela absolument incapables de vivre, et il faut se féliciter qu'on puisse les maintenir sur pied par ce traitement fractionné et récurrent. L'analyse des troubles de caractère exige aussi de longues périodes de traitement, mais elle est souvent couronnée de succès. Et connaissez-vous une autre thérapie par laquelle on pourrait, ne serait-ce que s'attaquer à cette tâche ? Donc il me semble que Freud savait déjà ce qu'il en était de ces diverses manières d'appréhender une analyse et qu'il ne s'offusquait nullement de la durée des analyses ni de leurs diverses modalités. Il est relativement clair dans ce texte. Nous pouvons déjà retenir qu'il n'avait établi aucune norme quant à la durée des analyses. La seule boussole qu'il s'impose dans ce texte concerne l'état de l'analysant, qu'il puisse vivre, le maintenir sur pied, peu importe la durée du traitement, incluant cette notion de garde analytique, qui pourrait bien justifier la longueur de certaines analyses. N'est-ce pas toujours d'actualité ? Lacan, quant à lui, nous rappelle dans sa préface à l'édition anglaise du séminaire 11 que la psychanalyse a, depuis qu'elle existe, changé. Inventée par un solitaire, théoricien incontestable de l'inconscient, qui n'est pas ce qu'on croit, je dis l'inconscient soit réel, qu'à m'en croire, elle se pratique maintenant en couple. Or, le couple analytique, pas plus que le couple dans la vie, n'est à l'abri des ruptures et trahisons. Trahison analytique qui fait résistance, comme le souligne Sibylle, quand l'analysant est confronté à une interprétation inadéquate, voire prématurément ou brutalement, ce qui le précipite dans une rupture du lien transférentiel concomitante à la chute du sujet supposé savoir. Mais cette butée n'est-elle pas paradoxalement l'occasion de poursuivre autrement l'analyse et d'en écrire une nouvelle page à partir de ce réel sur quoi l'analysant a reculé ? Ce faisant, confronté à ce trauma analytique qui vient redoubler le trauma d'origine, il en redouble le temps, celui de couvrir, puis de découvrir, soit le temps logique, de voir et de comprendre l'enjeu de ce réel en question. Distinguons le transfert à l'analyste et le transfert à la psychanalyse, même si les deux impliquent l'amour qui s'adresse au savoir. Une succession de plusieurs tranches d'analyse prolonge sa durée, puisque les enjeux de l'analyse changent à chaque étape à partir de l'expérience de la précédente. Mais précisément, la passe permet ce travail d'écriture, nouant la conclusion à la demande initiale en y mettant un terme. S'il y a une fin de transfert et une conclusion à chaque cure, la passe permet une mise en lumière sur l'ensemble du parcours analytique, ce qui fut ma grande surprise dès la rencontre du premier passeur. En un éclair, une logique se dégageait entre chaque tranche d'analyse, ce qui pourrait justifier la hâte des analysants à s'engager dans cette procédure. Dans l'après-coup, il est possible de dire que si la fin de l'analyse se présentait comme indissociable de la passe, c'était précisément pour en ordonner sa logique, depuis le premier rendez-vous, et cela, malgré les trois tranches d'analyse effectuées avec trois analystes différentes quant à leur modalité d'engagement dans la psychanalyse. Avant la passe, ces trois étapes de l'analyse m'apparaissaient complètement dissociées, sans lien, indicibles, notamment la première que j'avais oubliée, la seconde où je me demandais ce que j'avais fait avec le sentiment de m'y être perdu, et la troisième, certes plus récente, qui me restait gravée en mémoire comme la claque d'une vague inattendue qui emporte avec elle le transfert, met à plat le fantasme, vous laissant sur la plage comme objet de jouissance que vous avez été pour l'autre, mais qui a le mérite de vous réveiller, délesté du poids du réel, de la vie. D'où mon titre, de l'analyse à la passe, paradoxes et butées. Si je savais ce qui m'avait conduit chez la première analyste, je savais également que je l'avais quittée après une erreur de maniement du transfert, qui m'avait fait entrevoir prématurément l'horreur de savoir de la castration, ce qui justifiait que la seconde analyste me fasse déjà appel, alors que j'étais à la recherche d'une école de psychanalyse et que je m'inscrivais à la section clinique de l'époque. La recherche d'une école de psychanalyse pour m'orienter dans la clinique, me former la pratique analytique, m'apparaissant dès lors indispensable, là où cette première analyste se montrait réticente. Bien que d'orientation lacanienne, elle justifiait sa position du fait de ses expériences passées, où elle soulignait le panier de crabes qu'il fallait contourner, m'incitant à travailler ailleurs que localement. Les événements quelques années plus tard lui donneront raison. Je vais boire un coup, je suis désolée.
Concernant le panier de crabes, vous voulez dire ?
Oui, bien sûr. Il y avait au moins quelque chose de bien qu'elle avait dit. Donc, les événements quelques années plus tard lui donneront raison, en tout cas ça va apparaître comme ça. Mais en écoutant des collègues de régions ou de pays différents, comme à l'AG des Journées internationales en juillet dernier, on s'aperçoit que l'obscénité imaginaire finit toujours par envahir les groupes autour de quelques-uns, où l'un fait le maître avec ses disciples analysants pour se référer en premier lieu à Freud avec son cercle viennois. Et ses fragmentations plus tard. On retrouve ici la problématique des groupes contre l'école, que Sidi Escofaré soulignait à Toulouse voici quelques années. Est-ce inhérent aux groupes analytiques, aux écoles de psychanalyse ? Disons qu'il n'y échappe pas. Mais comment faire et quelle incidence dans les cures ? En ce qui me concerne, j'avais choisi cette première analyste parce qu'elle était la seule du dispositif universitaire de cette ville à travailler sur les textes de Lacan. Envers et contre tout, dirais-je, puisqu'elle était régulièrement menacée d'exclusion pour cette raison. Nous étions quelques étudiants à apprécier sa position éthique et nous suivions ses cours d'une année sur l'autre. Le transfert étant déjà établi, je prenais rendez-vous après l'annonce d'une longue maladie, comme on dit, d'un être cher, celui qui avait le plus compté au cours de mes premières années. C'est donc la rencontre de la maladie, du réel de la mort, qui me précipite en analyse, mais que j'avais oublié depuis le temps de ma première rencontre analytique. Alors que je m'angoissais sur ce que je pourrais bien dire de ce début d'analyse, un rêve paradigmatique s'imposait et qui, de fait, était à l'origine de la fin de cette première tranche d'analyse. Ce rêve, qui avait été un cauchemar, était suivi d'une interprétation qui faisait intrusion avec une violence inouïe, assimilable à une interprétation sauvage, ce qui suscita sidération puis colère, mais eut le mérite de faire coupure avec cette souffrance, non sans provoquer la chute du sujet supposé savoir, et le refus désormais de rapporter des rêves préférant blablater. Mais cette confrontation à l'insupportable n'est-il pas à l'origine de l'oubli de cette première expérience analytique ? Paradoxalement, à cette première butée de l'analyse qui donnait un aperçu de l'inconscient au travail et de la subtilité de ses formations, soit le temps de voir, s'enchaînait le rêve qui a déterminé le choix de la seconde analyste et qui présidait au début de cette analyse. Notons que cet analyste venait de perdre un être cher et qu'il est question dans ce rêve du chagrin d'une femme qui vit une séparation. Ce rêve trace les chemins du savoir de cette seconde étape de l'analyse qui permettra d'élaborer les coordonnées de la perte inhérente qu'impliquait le précédent deuil, tout en ouvrant un autre volet des coordonnées subjectives qu'il masquait jusque-là. Plus fort. Ah oui. Désormais, faut que je reprenne. Ah non. Désormais, je pouvais inscrire mon travail dans une école de psychanalyse en travaillant en cartel, participant localement aux activités de l'école concernée. C'est donc bien la perte et le deuil qui sont aux commandes de ce choix transférentiel. Ce qui ne m'était pas apparu aussi clairement avant ce premier entretien de passe, puisque j'avais oublié le parcours de la première analyse, ne gardant en mémoire que la douleur et la disjonction des deux signifiants, celui du cauchemar et celui de l'interprétation de l'analyste. Toutefois, cette première expérience analytique m'incitait à m'adresser exclusivement à des analystes membres d'une école de psychanalyse, sans pour autant se leurrer sur leur garantie. Galanterie, ce serait autre chose. Mais une école de psychanalyse offre un choix moins hasardeux. Multipliant les possibilités de rencontre de ceux-ci lors de ces activités, où la contingence peut contribuer à déterminer un choix à l'insu du sujet lui-même, comme en témoigne cette deuxième rencontre avec ce premier rêve qu'il inaugure. Lacan nous rappelle que l'inconscient est le témoignage d'un savoir en tant que pour une grande part, il échappe à l'être parlant. Durant cette seconde analyse, je serai à nouveau confrontée à des deuils importants, ainsi qu'à une succession de problèmes institutionnels où mon analyse sera impliquée, du fait de ses fonctions au sein de l'école, et qui m'amènera à penser décider de l'arrêt de l'analyse par déception et lassitude. La désignation de passeur arrivera, relançant mon désir de travail, mais il sera trop tard, et bien vite contrarié par le tumulte grandissant autour de mon analyste au sujet du fameux cartel de la passe qui divisait l'école et qui aura des effets délétères sur le transfert. En effet, si la crise institutionnelle avait entamé le transfert, elle avait aussi fait sortir l'analyste de ses gonds, c'est-à-dire aussi de sa fonction, précédant finir, exaspéré par le réel de l'institution. Moyennant quoi, je savais que mon analyse n'était pas terminée, que j'y reviendrais, mais loin de ces querelles institutionnelles et politiques qui m'apparaissaient incompréhensible, impossible pour des psychanalystes, me faisant opter pour quelques années sabbatiques, approuvant les dires de ma première analyste. Cependant, me détournant de la psychanalyse, j'enchaînais une série de passages à l'acte. La création des forums sera l'occasion de reprendre contact avec cette seconde analyste. Mais si une connivence amicale s'était installée, la reprise de la cure s'avérait impossible, m'amenant à frapper à la porte de la troisième analyste, qui sera le lieu où je pourrai enfin dire ma douleur, ma déception, tant sur le plan personnel qu'analytique, tout en interrogeant ma part de responsabilité dans ces choix successifs. Je misais le tout pour le tout, d'un transfert massif par déception des précédents. Cette analyste-là ne pouvait pas défaillir du fait de son expérience au sein des écoles de psychanalyse. Évidemment, ce choix correspondait également à des coordonnées plus subjectives, où le signifiant école était engagé. Après une visite et un remaniement de la précédente étape, je pouvais enfin inscrire mon travail dans l'école, investir la vie institutionnelle et conclure mon analyse, malgré des désaccords ou déceptions vers certaines décisions institutionnelles qui n'ont pas été sans incidence sur la fin de l'analyse. Un analyste qui a chance de répondre, c'est celui qui supporte les erreurs passées et qui transmet par son acte de bien dire, le désir de savoir. Ce désir qui maintient au travail dans une école. Prendre l'option de s'en tenir là relève de l'acte de l'analysant. Ainsi, il aura fallu ces trois étapes successives, trois rencontres d'analystes, pour conclure qu'il n'y a rien à attendre de l'autre, saisir qu'il n'a que l'existence qu'on veut bien lui prêter, via le transfert qui nous y fait croire, l'expérience institutionnelle venant contribuer au dévoilement du fantasme et à cette chute du sujet supposé savoir. Pour autant, existe-t-il une école idéale? Si l'école vise la transmission de la psychanalyse, comment la faire fonctionner? Alors, ces diverses incursions institutionnelles et ou politiques qui s'invitent dans les cures, ne font-elles pas partie intégrante de la formation des analystes comme indice de la non-garantie? Pas d'autre de l'autre, nous dit Lacan. En effet, pas moyen d'échapper à cet être pour la mort, ni l'analyste, ni la psychanalyse ne peuvent en protéger l'analysant, et c'est même à sa confrontation qu'ils le conduisent. La conclusion d'une analyse ne vise-t-elle pas, au-delà de l'assomption de la castration, la chute de l'innocence face à un autre qui protégerait du réel, quel que soit le réel en question pour chacun? Lacan nous a enseigné que l'on s'habitue au réel, mais il faut du temps pour le repérer, s'y faire, comme il le souligne dans le moment de conclure. La durée des analyses ne tient-elle pas à ce refus pour chaque sujet de s'y confronter? Ce faisant, les analyses durent. Merci.